Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec le titre. L'existence de l'équipe de contrôle les étrangères est efficace. Les journalistes jouent un rôle stratégique d'introduire l'ASEAN. Après le lever du drapeau de séparatistes, l'Indonésie et l'Australie doivent prendre des mesures anticipatives. L'avion CN-235 commandé par le Sénégal est arrivé à Dakar. La mosaïque d'art provient de déchets recyclés de verre à pénétrer l'Asie et le Moyen-Orient. Des dizaines de mètres de terrain à Mokomoko perdent en raison de l'abrasion. Jérémy nous présente maintenant le journal complet. Le gouvernement indonésien a formé une équipe de contrôle des étrangers. La fonction de cette institution est de prévenir les irrégularités par des étrangers. Le gouvernement indonésien a donné la politique d'exemption de visa de visiter aux 169 pays. Le chef des relations publiques de Direction générale de l'immigration, M. Agung Sampurno, a déclaré à RRI récemment que l'existence de l'équipe de contrôle était efficace pour arrêter des citoyens étrangers qui ne disposent pas d'un permis. L'équipe de contrôle consiste de TNI, la police, le ministère de l'Intérieur, l'immigration et aussi les gouvernements locaux. À l'avenir, la coordination sera intensifiée afin que la surveillance des étrangers soit plus efficace. Le directeur des affaires communication de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est ou ASEAN, Lee Yong-yong, a déclaré que les journalistes ont joué le rôle très stratégique pour introduire cette institution pour se rapprocher de la communauté, surtout dans le cadre de la communauté économique de l'ASEAN qui a été convenue en décembre 2015. Dans le discours d'ouverture lors de la réunion du conseil d'administration de la Confédération des journalistes récemment, Lee Yong-yong a déclaré qu'il a mené l'enquête et les résultats sont moins de 75% de la population en général ne sait pas bien l'ASEAN. La plupart des gens dans les pays de l'ASEAN a comprendre le nom de cette organisation, mais ne sait pas ses activités, son avantage et aussi ses programmes. Par conséquent, la participation des médias est cruciale en fournissant des informations précises sur l'ASEAN et aussi les questions d'actualité dans la région et éviter des reportages biaisés. Selon lui, le journaliste joue le rôle important car il peut améliorer et empêcher les gens de malentendus en ce qui concerne les questions actuellement en guidant la communauté à faire face aux défis et exploiter les opportunités créées par la communauté économique de l'ASEAN. Les journalistes et aussi les médias peuvent aider les gens à développer des idées, prendre des décisions et aussi de tirer profit de chaque occasion de la communauté économique de l'ASEAN. Le professeur de la loi internationale de l'Université de l'Indonésie, M. Hikmahanto Juwana, a déclaré que le gouvernement indonésien et australien doivent prendre des mesures anticipatives liées à la levée du drapeau du mouvement séparatiste de la Papouasie au consulat général d'Indonésie à Melbourne. Le lever du drapeau a eu lieu vendredi lorsque plusieurs membres du personnel du consulat général d'Indonésie à Melbourne font la prière du vendredi en congrégation. Il a affirmé que l'incidence des résidences de Izé, le drapeau Bintang Kejora, au consulat d'Indonésie à Melbourne, doit être vigilant par le gouvernement indonésien et de l'Australie, afin de ne pas déranger les relations entre les deux pays. Il a déclaré que ses résidents étaient susceptibles de profiter de la situation après la suspension temporaire de la coopération militaire entre les deux pays. Hikmahanto Juwana a ajouté qu'afin d'anticiper les mauvaises relations entre les deux pays, le gouvernement australien doit tenir compte de la demande du ministre des Affaires étrangères pour plus d'attention à la sécurité et pour garder bien le consulat général. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'avion CN-235 produit par PT Dirgantara Indonesia et commandé par le Sénégal sont arrivés au centre de la force aérienne du Sénégal au Dakar et la fonction exécutive de l'économiste à l'ambassade d'Indonésie au Dakar, le Sénégal, M. Rahmat Azari, a déclaré à Antara de Londres dimanche que l'avion CN-235 était la deuxième commande du gouvernement du Sénégal qui était très attendue depuis l'octobre l'année dernière. Est arrivé avec 15 équipages. Ces équipages composant de 4 pilotes, dont l'un étant citoyen du Sénégal, l'ingénieur d'essai en vol et 10 mécaniciens. Le chef d'état-major de l'armée aérienne du Sénégal, le général Biram Diop, est très heureux avec l'arrivée de l'avion CN-235 qui était attendu depuis longtemps pour renforcer sa flotte des forces aériennes. Cependant, l'ambassadeur indonésien à Dakar, M. Mansur Pangeran, a déclaré que l'arrivée de l'avion CN-235 au Dakar était la fierté comme la réussite du travail de la nation indonésienne qui montre au monde que l'Indonésie était en mesure de produire et de concourir dans le domaine de la technologie aérospatiale avec d'autres pays développés. L'arrivée de CN-235 peut être utilisée comme un exemple dans la promotion de produits de PT Dirgantara à 7 pays tels que la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et aussi le Gabon Vert. L'artisanat de la mosaïque d'art de déchets recyclés de verre est capable de pénétrer le marché d'exportation pour de nombreux pays d'Asie et du Moyen-Orient. C'est ce qu'a affirmé un artisan mosaïque de déchets recyclés en verre, Suyanti, au village de Semoyan, la région de Bantul, Yogyakarta. Selon lui, les affaires dans ce domaine sont devenues une occasion d'affaires prometteuse qui ne nécessite pas de gros investissements. Suyanto a déclaré que la combinaison de flocons de verre est créée sous la forme de boîtes de mouchoirs, des miroirs, des vases, des horloges murales, la calligraphie et beaucoup de motifs plus intéressants. Il a expliqué qu'il avait commencé ses affaires depuis 2010, continue d'accroître la demande chaque année. Le dirigeant communautaire de district Air Dikit, la région de Mukomuko, la province de Bengkulu, M. Bustari, a déclaré récemment à Mukomuko que chaque année, environ 12 mètres de terrain perdus en raison de l'abrasion côtière. Selon lui, l'abrasion côtière a supprimé la plupart des tombes dans un cimetière public dans la région. La majorité est l'ancien cimetière des résidents locaux qui ne sont plus connus de l'identité de la famille. Actuellement, l'abrasion commence à approcher la plantation communautaire du village air dikit. Charmi setel jurnal de la voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Construire un meilleur système de transport ». Les embouteillages deviennent un problème qui ne peut pas être résolu dans les grandes villes en Indonésie, notamment dans la capitale de Jakarta. La construction des routes qui sont menées par le gouvernement ne sont pas en mesure d'accueillir le nombre de véhicules qui augmente d'année en année. Jakarta, la capitale de l'Indonésie, a une population très dense. Selon les données de l'Agence centrale des statistiques, ou BPS, les résidents de Jakarta en 2011 a atteint environ 9,9 millions d'habitants. La superficie de Jakarta n'est pas si grande, environ 664 km², ce qui rend la ville de Jakarta ne peut pas accueillir toutes les activités commerciales et sociales. Ainsi, on a besoin de soutien des zones à proximité. En tant que capitale de l'État, le centre d'affaires, le centre gouvernemental et le centre éducatif, Jakarta devient la principale attraction pour les résidents dans les villes voisines. Donc, de nombreux habitants dans les villes voisines, telles que Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang et Bekasi, travaillent et font des affaires et aussi des activités éducatives dans la capitale. On estime que plus de 4 millions d'habitants de Bogor, Depok, Tangerang et Bekasi se sont rendus à Jakarta et vice-versa tous les jours. Pas étonnant que la circulation de ces villes à Jakarta et vice-versa est plus dense, notamment pendant les heures de pointe. Les embouteillages sont les plus graves par les nombreuses personnes qui préfèrent utiliser les véhicules privés par rapport que des transports en commun. Pour surmonter les embouteillages à Jakarta, le gouvernement a lancé une variété de façons, entre autres la construction d'un moyen de transport de masse tels que le métro et LRT ou Light Rapid Transit ou bien train rapide à la légère. Le processus de la construction du métro a été commencé le 10 octobre 2013 et être achevé en 2018. La ligne de métro va attirer environ 110,8 km, alors que le projet de train léger rapide, avec une longueur totale de 83,6 km, a été commencé depuis le 9 septembre 2015 et devrait être achevé au mi-2018. Ce train rapide peut transporter au moins 50% des gens de Bogor, Jakarta, qui ont la haute mobilité. Actuellement, 30% des passagers de train de commuter Jabodetabek en provenance de Bogor. Nous espérons qu'avec l'achèvement de la construction des transports en commun, le problème des embouteillages à Jakarta et aussi les villes environnantes peuvent être résolus. En outre, le transport confortable, sûr et rapide devrait inviter les utilisateurs de véhicules privés pour prendre le transport en commun. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 9 janvier 1951, le siège de l'ONU a été officiellement ouvert à New York. Le siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, les États-Unis, est le site le plus important et le lieu principal de l'Organisation des Nations Unies. Ceci en organise l'Assemblée générale de l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU et le Conseil économique et social des Nations Unies. En outre, ici, il y a le bâtiment du secrétariat des Nations Unies, créé en 1945. Le quartier général est situé à Londres. Mais le 24 octobre 1949, la première pierre du quartier général de l'ONU a été posée à New York. À cette fin, John Rockefeller II a fait don d'environ 7 hectares de terrain sur le bord oriental de Manhattan à l'Organisation des Nations Unies comme son actif et comme une région territoire internationale. Le 9 janvier 1951, les principaux bâtiments de ce complexe ont été achevés et officiellement ouverts. Le 9 janvier 1960, le début de la construction du barrage d'Aswan en Égypte. Le barrage d'Aswan est situé dans la région sur le Nil en Égypte. Il a été construit le 9 janvier 1960 et a été achevé en 1970 durant le règne du président Gamal Abdel Nasser. Le barrage est très bénéfique pour l'Égypte, entre autres de protéger les régions de l'écoulement du Nil des risques d'inondations annuelles à cause de l'écoulement abondant de l'eau dans l'été qui vient de l'écoulement du Nil. Le barrage est en mesure de faire l'économie égyptienne se développer très rapidement et significatif. Le 9 janvier 2005, Mahmoud Abbas est élu à la tête de l'autorité palestinienne. Après la mort du leader palestinien charismatique Yasser Arafat en novembre 2004, les fonctionnaires de l'Organisation de libération de la Palestine, ou OLP, ont choisi à unanimité Mahmoud Abbas comme président de l'OLP le 11 novembre 2004. Il remporte l'élection à la présidence de l'autorité palestinienne avec 62,3% des votes, mais son mandat à la tête de l'autorité palestinienne d'être très lourd après la victoire du Hamas aux élections législatives le 25 janvier 2006 qui délivre Ismaël Haniyeh comme le poste de premier ministre de la Palestine. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie. Avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, voici donc la mise au point et pour le titre, l'Indonésie proteste le lever du drapeau de l'OPM au consulat de l'Indonésie à Melbourne. Le gouvernement indonésien condamne fermement les actes criminels qui ont éclaté dans le complexe du consulat général indonésien à Melbourne et hissé le drapeau du mouvement de la Papouasie libre, OPM. Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Arman Atanasir, dans un communiqué de presse à Jakarta samedi, a déclaré que le gouvernement avait envoyé une protestation au gouvernement australien et a exigé que les auteurs soient arrêtés et punis en conformité avec la loi applicable. Citant l'agence de presse Antara, selon des informations du consulat général d'Indonésie à Melbourne, des agissements criminels commis par certains sympathisants séparatistes se sont produits vendredi à 12h50, heure locale, lorsque la plupart des membres du personnel organisaient régulièrement des prières vendredi. Les auteurs ont percé un immeuble voisin du consulat général indonésien à Melbourne, puis ont grimpé le mur de la prémisse de l'Indonésie, qui est plus de 2,5 mètres de haut. Arman Atanasir a déclaré que c'est l'obligation de l'hôte de respecter la souveraineté de ses pays amis. Il est donc nécessaire de maintenir la sécurité et l'ordre dans le voisinage des prescriptions officielles des pays qui établissent des relations diplomatiques avec ce pays. La même chose est toujours faite par l'Indonésie à tous les représentants officiels des complexes des pays amis en Indonésie. Il y a même une unité spéciale de la police indonésienne qui lui est affectée. Ahmad Atanasir a affirmé que le gouvernement indonésien avait également rappelé au gouvernement australien sa responsabilité de protéger les missions diplomatiques et consulaires dans la zone de compétence énoncée dans la Convention de Vienne en 1961 et en 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires. Elle a ajouté que le gouvernement indonésien avait demandé l'autorisation de l'Australie d'assurer et d'améliorer la protection de toutes les propriétés diplomatiques et consulaires indonésiennes en Australie. Pendant ce temps, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a affirmé que les autorités australiennes devraient immédiatement traiter l'incident de Percé et amener les éleveurs de drapeaux de l'OPM au consulat de Melbourne à la loi. Selon elle, les autorités australiennes devraient immédiatement terminer l'enquête et le processus judiciaire des criminels. Elle a ajouté, Percé au complexe du consulat général indonésien à Melbourne était un acte criminel qui ne peut tout simplement pas être toléré. En conséquence, l'Australie, en tant que pays d'hôte, a l'obligation et la responsabilité de traiter immédiatement les auteurs conformément à la loi et d'assurer la sécurité de toutes les missions indonésiennes en Australie, conformément à la Convention de Vienne en 1961 et 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir.
Le gouvernement indonésien a formé une équipe de contrôle des étrangers. La fonction de cette institution est de prévenir les irrégularités par des étrangers. Le gouvernement indonésien a donné la politique d'exemption de visa de visiter aux 169 pays. Le chef des relations publiques de la Direction générale de l'immigration, M. Agung Sampurno, a déclaré à RRI récemment que l'existence de l'équipe de contrôle était efficace pour arrêter des citoyens étrangers qui ne disposent pas d'un permis. L'équipe de contrôle consiste de TNI, la police, le ministère de l'Intérieur, l'immigration et aussi les gouvernements locaux. À l'avenir, la coordination sera intensifiée afin que la surveillance des étrangers soit plus efficace. Le directeur des affaires communication de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est ou ASEAN, Lee Yong-yong, a déclaré que les journalistes ont joué le rôle très stratégique pour introduire cette institution pour se rapprocher de la communauté, surtout dans le cadre de la communauté économique de l'ASEAN qui a été convenue en décembre 2015. Dans le discours d'ouverture lors de la réunion du conseil d'administration de la Confédération des journalistes récemment, Lee Yong-yong a déclaré qu'il a mené l'enquête et les résultats sont moins de 75% de la population en général ne sait pas bien l'ASEAN. La plupart des gens dans les pays de l'ASEAN a comprendre le nom de cette organisation, mais ne sait pas ses activités, son avantage et aussi ses programmes. Par conséquent, la participation des médias est cruciale en fournissant des informations précises sur l'ASEAN et aussi les questions d'actualité dans la région et éviter des reportages biaisés. Selon lui, le journaliste joue le rôle important car il peut améliorer et empêcher les gens de malentendus en ce qui concerne les questions actuellement en guidant la communauté à faire face aux défis et exploiter les opportunités créées par la communauté économique de l'ASEAN. Les journalistes et aussi les médias peuvent aider les gens à développer des idées, prendre des décisions et aussi de tirer profit de chaque occasion de la communauté économique de l'ASEAN. Le professeur de la loi internationale de l'Université de l'Indonésie, M. Hikmahanto Juwana, a déclaré que le gouvernement indonésien et australien doit prendre des mesures anticipatives liées à la levée du drapeau du mouvement séparatiste de la Papouasie au consulat général d'Indonésie à Melbourne. La levée du drapeau a eu lieu vendredi lorsque plusieurs membres du personnel du consulat général d'Indonésie à Melbourne font la prière du vendredi en congrégation. Il a affirmé que l'incidence des résidences de Izé, le drapeau Bintang Kejora, au consulat d'Indonésie à Melbourne doit être vigilant par le gouvernement indonésien et de l'Australie afin de ne pas déranger les relations entre les deux pays. Il a déclaré que ses résidents étaient susceptibles de profiter de la situation après la suspension temporaire de la coopération militaire entre les deux pays. Hikmahanto Juwana a ajouté qu'afin d'anticiper les mauvaises relations entre les deux pays, le gouvernement australien doit tenir compte de la demande du ministre des Affaires étrangères pour plus d'attention à la sécurité et pour garder bien le consulat général. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'avion CN-235 produit par PT Dirgantara Indonesia et commandé par le Sénégal sont arrivés au centre de la force aérienne du Sénégal au Dakar et la fonction exécutive de l'économiste à l'ambassade d'Indonésie au Dakar, le Sénégal, M. Rahmat Azari, a déclaré à Antara de Londres dimanche que l'avion CN-235 était la deuxième commande du gouvernement du Sénégal qui était très attendu depuis l'octobre l'année dernière, est arrivé avec 15 équipages. Ces équipages composant de 4 pilotes, donc l'un étant citoyen du Sénégal, l'ingénieur d'essai en vol et 10 mécaniciens. Le chef d'état-major de l'armée aérienne du Sénégal, le général Biram Diop, est très heureux avec l'arrivée de l'avion CN-235 qui était attendu depuis longtemps pour renforcer sa flotte des forces aériennes. Cependant, l'ambassadeur indonésien à Dakar, M. Mansur Pangeran, a déclaré que l'arrivée de l'avion CN-235 au Dakar était la fierté comme la réussite du travail de la nation indonésienne qui montre au monde que l'Indonésie était en mesure de produire et de concourir dans le domaine de la technologie aérospatiale avec d'autres pays développés. L'arrivée de CN-235 peut être utilisée comme un exemple dans la promotion de produits de PT Dirgantara à 7 pays, tels que la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et aussi le Gabon Vert. L'artisanat de la mosaïque d'art de déchets recyclés de verre est capable de pénétrer le marché d'exportation pour de nombreux pays d'Asie et du Moyen-Orient. C'est ce qu'a affirmé un artisan mosaïque de déchets recyclés en verre, Suyanti, au village de Semoyan, la région de Bantul, Yogyakarta. Selon lui, les affaires dans ce domaine sont devenues une occasion d'affaires prometteuse qui ne nécessite pas de gros investissements. Suyanto a déclaré que la combinaison de flocons de verre est créée sous la forme de boîtes de mouchoirs, des miroirs, des vases, des horloges murales, la calligraphie et beaucoup de motifs plus intéressants. Il a expliqué qu'il avait commencé ses affaires depuis 2010, continue d'accroître la demande chaque année. Le dirigeant communautaire de district Air Dikit, la région de Mukomuko, la province de Bengkulu, M. Bustari, a déclaré récemment à Mukomuko que chaque année, environ 12 mètres de terrain perdu en raison de l'abrasion côtière. Selon lui, l'abrasion côtière a supprimé la plupart des tombes dans un cimetière public dans la région. La majorité est l'ancien cimetière des résidents locaux qui ne sont plus connus de l'identité de la famille. Actuellement, l'abrasion commence à approcher la plantation communautaire du village Air Dikit. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
écouter des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix d'Indonésie. Voici la rubrique magazine culturel. Cette fois, nous allons vous inviter à visiter un plus haut village sur l'île de Java. Alors, restez avec nous sur La Voix d'Indonésie, le service international de la Radio République Indonésie. Outre par les zones courtes, vous pouvez également écouter notre émission via le streaming audio sur www.ve.so.id ou via RRI Play sur votre téléphone intelligent. Chers auditeurs, en dépit de l'euphorie de la fête du Nouvel An est terminée, il n'a jamais fait mal à planifier des vacances en 2017. Le village Sembungan pourrait être l'une des destinations que vous pouvez inclure dans votre liste de lieux de vacances cette année. Situé à une altitude de plus de 2100 mètres au-dessus du niveau de la mer, le village Sembungan a la caractéristique en géographie, le charme naturel et la vie de ses habitants. Ces villageois sont habitués à communiquer avec les visiteurs. Il n'est pas étonnant que vous soyez accueillis avec la gentillesse et un sourire. Presque tous les villageois de Sembungan sont les agriculteurs. Les pommes de terre, les divers légumes et carica sont un type de plante qui est devenue la principale marchandise de ce village. En plus du secteur agricole, le secteur du tourisme joue également un rôle dans la croissance économique. Une attraction touristique célèbre dans le village de Sembungan est la colline de Sikunir et le lac de Cebong. Au sud du village, il y a un lac, c'est le lac de Cebongan. Avec la source d'eau qui ne sèche jamais, en plus d'être l'une des attractions touristiques qui attirent les touristes à visiter, le lac de 5 hectares est également utilisé par la communauté locale comme une source d'eau. Les agriculteurs dépendent de l'eau dans ce lac pour leurs terres agricoles. Outre le lac, il y a aussi des collines très hautes avec un léger bruyère et la fraîcheur naturelle. Pour ceux qui veulent profiter d'une vue magnifique sur le lever du soleil, visitez la colline de Sikunir. Des paysages naturels spectaculaires dans la matinée est appelé Sikunir Golden Sunrise. Une autre chose intéressante que vous pouvez trouver dans le village de Sembungan est pendant le pic de la saison sèche, autour de juillet ou août. Si vous êtes chanceux, vous serez présenté le panorama en habituel. La vase de l'agriculture verte pendant la journée sera blanche lorsque le premier soleil s'allume. Le village de Sembungan est inclus dans le district de Kejajar, la résidence de Wonosobo. Située à environ 7 km du centre touristique du plateau Dieng, la route accès au village de Sembungan est déjà asphaltée. Cela dit, dans le plateau de Dieng, ce village qui a d'abord été habité. Les gens qui viennent à partir des régions de Wonosobo vivent dans ce village, puis répartis dans les zones qui sont dans les environnantes, pour établir de nouveaux villages. Pour ceux qui veulent passer la nuit dans ce village, ne vous inquiétez pas, vous pouvez rester à la maison ou les résidents locaux. Appréciez l'hospitalité de la communauté locale et la beauté du charme naturel du village Sembungan peut certainement être une expérience inoubliable. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « Un village touristique de Sembungan ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Allez apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et qui vous guide de parler l'indonésien. Notre sujet ce soir est Memotong Rambut, ou en français, couper les cheveux. Chers auditeurs, tout d'abord, je vais introduire le vocabulaire et les expressions de langue indonésienne reliant au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Memotong rambut. Memotong rambut. En français, couper les cheveux. Pulang kantor. Pulang kantor. En français, rentrer à la maison. Kemana. Kemana. En français, où. Langsung. Langsung. En français, direct. Ou direct. Ou directement. Pulang. Pulang. En français, rentrer. Salon. Salon. En français, salon de beauté. Tarif. Tarif. En français, tarif. Tidak mahal. Tidak mahal. En français, pas cher. Ikut. Ikut. En français, participer. Akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini. En français, dernier temps. Udara. Udara. En français, air. Panas. Panas. En français, chaud ou chaude. Pendek. Pendek. En français, court ou courte. Segar. Segar. Frais ou fraîche. Lebih muda. Lebih muda. En français, plus jeune. Bersama. Bersama. En français, ensemble. Ensuite, c'est l'exemple de conversation ayant pour titre Memotong rambut ou en français couper les cheveux. Comme d'habitude, je vais prononcer lentement phrase par phrase deux fois. Vous pouvez répéter après moi. Cette conversation est entre Ida A et Anna B au bureau. A. Hai Anna, setelah pulang kantor, kamu mau kemana? Je répète. Hai Anna, setelah pulang kantor, kamu mau kemana? En français. Salut Anna, après avoir rentré à la maison, vous voulez aller où? B. Saya tentu saja langsung pulang. Saya tentu saja langsung pulang. En français. Je suis rentré directement à la maison. B. Kamu mau pergi kemana? Kamu mau pergi kemana? En français, vous voulez aller où? A. Saya mau ke salon. Saya mau ke salon. En français, je vais au salon de beauté. A. Saya mau motong rambut. Saya mau motong rambut. En français, je veux couper les cheveux. B. Apakah kamu sering pergi ke salon itu? Apakah kamu sering pergi ke salon itu? En français, allez-vous souvent au salon? A. Ya, menurut saya salon itu bagus. Je répète, ya, menurut saya salon itu bagus. En français, oui, je pense que c'est un bon salon de beauté. A. Karena selain potongan rambutnya bagus, tarifnya juga tidak terlalu mahal. Je répète, karena selain potongan rambutnya bagus, tarifnya juga tidak terlalu mahal. En français, parce qu'en plus d'une bonne coupe de cheveux, le tarif est également bon marché. B. Kalau begitu, saya ikut dengan kamu. Kalau begitu, saya ikut dengan kamu. En français, ainsi, je viens avec vous. B. Akhir-akhir ini udara sangat panas. Akhir-akhir ini udara sangat panas. En français, ces derniers temps, l'air est très chaud. B. Saya juga mau memotong rambut saya. Saya juga mau memotong rambut saya. En français, je veux aussi couper mes cheveux. A. Ya, rambut pendek membuat kita kelihatan segar dan lebih muda. Je répète. Ya, rambut pendek membuat kita kelihatan segar dan lebih muda. En français, oui. Les cheveux courts nous font regarder fresh et plus jeune. B. Baiklah, nanti kita pergi bersama. Baiklah, nanti kita pergi bersama. En français, d'accord, nous allons passer ensemble. B. Sampai nanti. Sampai nanti. En français, à bientôt. C'était donc l'édition Parlons l'Indonésie. Espérons que cette question peut être utile pour ceux d'entre vous qui veulent en savoir plus sur l'Indonésie. Nous vous reverrons demain avec un sujet différent. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt. Comme la fin de notre émission, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Cette fois, nous allons présenter des chansons de Keroncong. On écoutera la première chanson intitulée Taman Laut ou Le Parc Marin, chantée par Novita Indri. Bonne écoute. Serge Ritard, merci d'écouter La Voix d'Indonésie dans le programme musical. Et cette fois, nous présentons des chansons de Kroncong. Le thème de cette chanson est l'une des richesses naturelles de l'Indonésie. C'est la beauté du parc Marang qui peut inviter l'admiration de beaucoup de gens qui viennent pour profiter de sa beauté. Cette chanson décrit la diversité et la beauté des récifs coralliens et une variété de poissons qui vivent sous l'eau. C'était l'Indonésie. La voix mélodieuse de Novita Indri, la beauté des paroles et la musique qui accompagnent est un mélange parfait dans cette chanson. On écoutera la deuxième chanson intitulée Kesayangan ou Le plus aimé, chantée par Tri Novianti. Bonne écoute.
Hasrat hatiku ini
Chers auditeurs, c'était la chanson de Crunchon intitulée « Le plus aimé » chantée par Trino Vianti. La chanson de Crunchon intitulée « Le violon de verre » chantée par Trino Vianti. Elle raconte des merveilleux souvenirs de quelqu'un dans le passé. Le son de violon mélodieux lui rappelait toujours de son amant qui chantait des chansons crunchons à l'accompagnement du violon. Une chanson est créée pour quelqu'un qui est allé pour toujours. Les prières sincères pour qu'il soit toujours heureux. Cette chanson est bien chantée par Trino Vianti. Sa voix mélodieuse fait cette chanson est agréable à écouter. Dans le passé, elle était souvent chantée les crunchons dans la télévision d'État. Chers amis, voici les deux dernières chansons de Crunchon intitulées Le violon de verre et Bouquet de fleurs, chantées par Trino Vianti. Bonne écoute et à bientôt.
Teringat masa yang
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.